Mais sur Radio Canu, n'hésitez pas à soutenir la radio en envoyant vos chèques à Radio Canu, boîte postale 1101 69 201 Lyon CEDEX 1. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur le site internet de Radio Canu, www.radiocanu.org. Merci à vous.
Quel est donc le bon son que tu viens d'entendre? T'es toujours sur Radio Canu et tu viens d'entendre un titre de Mehdi Alouane. Parce que ce soir dans la causerie, eh ben il y a Mehdi. Alors on remercie Mehdi parce qu'il est là. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir, merci à vous de m'accueillir ce soir.
C'est avec un grand plaisir ça. Un plaisir non dissimulé en plus.
On a Fab qui est là aussi.
Ben oui, bonsoir à toutes et tous.
Et Clara qui est à la technique.
Bonsoir.
Et moi-même, Jean-Yves.
Et oui, Jean-Yves qui m'a pas laissé le temps de dire « et Jean-Yves ».
C'est ça.
Et donc ce soir, exceptionnellement, Mehdi, tu viens t'incruster dans la causerie un petit moment pour présenter donc ta nouvelle tournée qui débute, a priori, si j'ai tout compris, dans très peu de temps, c'est-à-dire le...
6 décembre.
Ah, ça c'est beau. Vous voyez, c'est dans pas longtemps. Ouais. Et c'est à...
C'est à la Tréperie. À la Croix-Rousse.
Ah, ouais. Alors,
c'est une salle de concert et voilà, c'est à la Croix-Rousse.
Mmh.
Voilà.
Alors pour les Lyonnais qui ne connaissent pas la Tréperie, c'est rue Humbert Colomès. Si ma mémoire est bonne, c'est même au 22.
Ouais, ouais.
Donc voilà, ma mémoire avec un cahier où c'est écrit 22. Et du coup, ben, pour ceux qui ne savent pas, il suffit de prendre le métro C, de monter un tout petit peu, et de, soit de redescendre à partir de la Croix-Rousse jusqu'à la rue Humbert Colomès, soit de monter de... Et non, non, pas et non du tout, de Croix-Paquet jusqu'à la rue Humbert Colomès. Voilà. C'est donc pas loin. Et donc, ça vaut le coup de venir te voir le 6 décembre.
Ah oui, bien sûr.
Et c'est le 6 décembre à 20h, c'est ça?
À 20h, oui. Mmh.
Alors, où c'est qu'on peut trouver les places, Mehdi?
Les places, les ventes, en fait, ça sera sur place.
Ah d'accord, c'est une vente...
Les gens se présentent et ça va être sur place, en direct.
On peut donner peut-être le tarif?
Ça sera 10 euros.
Ouais. Ah ben voilà. Donc, pas cher pour un bon concert, quand même.
Non, clairement. Et moi, j'avais une question, Mehdi. Vous serez combien sur scène? Tu seras tout seul ou tu seras accompagné? Tu seras...
Sur scène, on sera trois.
Trois
personnes. Il y aura Mohamed Miassi à la guitare électrique. Il y aura Amin Jmili. Il va jouer le luth, le oud.
Uh-huh.
Et ça sera moi aussi à la batterie. Clavier, sample et dulcimer.
Alors, dulcimer.
Ouais, c'est l'instrument que j'ai
c'est
ramené.
C'est l'instrument que tu nous as ramené la dernière fois.
Ben oui,
il a plusieurs noms en fait. Dulcimer, centaure.
Mais c'était pour rappeler à nos auditeurs ce qu'ils avaient déjà entendu dans la causerie. Parce que si vous nous écoutez souvent, vous avez régulièrement de la très bonne musique. Donc voilà. Et vous apprenez des noms d'instruments en plus. C'est drôlement bien. Je suis un peu perturbé parce qu'on est un peu filmé, c'est pas habituel pour moi, mais ça va aller. C'est la peur de la caméra.
Et moi j'avais une question en fait aussi par rapport aux gens, vu que tu nous parlais des gens qui étaient sur scène et la dernière fois tu étais venu avec Mina.
Ouais.
Et ben je voulais savoir si elle serait aussi là ou pas, mais vu que tu viens de dire qu'elle n'était pas là, effectivement on pourrait peut-être en profiter pour passer un bonjour. Je ne sais pas si elle nous écoute.
Non, Mina, elle ne sera pas avec nous. Malheureusement, elle a eu un décès dans sa famille. Du coup, voilà, elle ne sera pas avec nous.
On pense à elle.
Ouais.
On pense à elle et voilà, c'est la vie.
Ouais.
Et du coup, alors moi j'ai une question, parce qu'on parle du 6 décembre à Lyon, alors je vais le redire encore, 6 décembre à Lyon, à la Tréperie, 22 rue Humbert Colomès à 20h, il faut tous y être.
10 euros. Aussi, c'est pas cher, il faut le dire.
Voilà. Donc du coup, tu démarres ta tournée, donc qui dit démarrer une tournée dit, tiens, il y a d'autres dates,
parce que
sinon on ne démarre pas, on fait qu'une date. Alors, où tu vas te balader après?
Un petit peu en France, ce sera plus dans le Rhône.
Ouais.
Dans le Rhône. On va jouer aussi à Metz, près de Nancy. Mmh. À Paris aussi, il y aura deux dates. Il y aura des showcases aussi avec Gilbert Joseph.
Mmh.
On va jouer aussi à Rouen.
Mmh.
Et beaucoup de dates aussi sur Lyon.
Et alors, où on peut retrouver toutes les dates? Parce qu'on ne va pas les donner toutes une par une, là. Mais...
Oui, bien sûr. Ça sera affiché sur Facebook.
Ouais. Toujours.
Ouais, toujours sur Facebook. Les gens, ils vont être au courant de l'évolution de la tournée. Il va y avoir tous les détails, tout.
D'accord, ok. Ce que vous entendez, c'est un portable. Le titititit. D'accord. Donc du coup, ils vont sur ton Facebook. Donc toujours pareil, Mehdi Alouane.
Ouais,
et
Alouane,
on le trouve assez facilement, voilà. Hein, je confirme. Et abonnez-vous à la page de Mehdi pour avoir toutes les dernières infos.
Il y a tous les détails. C'est toujours mis à jour.
Ah bah c'est nickel. Et d'ailleurs, on voulait te remercier au passage de la super promo que tu as fait pour l'émission de ce soir.
Ah, avec plaisir.
parce que nous, ça nous fait vachement plaisir et du bien en plus.
Et t'es très suivi justement, ouais. Et très suivi à l'international en fait.
Ah oui, oui, oui.
Ouais, mais... ça fait vraiment plaisir. Oh.
Bah, comme on le disait l'autre fois, nous on a encore une fois l'événement de l'émission qui est parti en partage à l'autre bout du monde. Ouais. donc c'était très surprenant, mais on est content. Donc amis auditeurs japonais, si tu nous écoutes, et ben welcome.
Okay. Non, c'est vraiment super sympa. Je reçois pas mal de messages aussi de un petit peu partout dans le monde. Il y a plein de gens qui me demandent d'aller jouer dans leur pays et tout. Ça me fait vraiment plaisir et pourquoi pas.
Ah bah, c'est impeccable.
Vraiment. Alors, Midi, il nous a fait le plaisir de venir avec un truc. Alors, je connais pas du tout le nom, c'est un instrument, mais tu pourrais te donner le nom de cette machine.
C'est une soucoupe volante.
Il s'appelle le Handsonic Supernatural. C'est un instrument, en fait, c'est une sorte de pad, mais qui contient plusieurs sons à l'intérieur, plus de 200 sons, et voilà, c'est à moi de manier les sons et faire un montage et des arrangements avec. Voilà.
Donc en fait du coup pour les gens qui voient pas, enfin je vais faire un peu mon vieux con, pardon, mais pour ceux qui ont connu les années 80, ça ressemble à un Simon des années 80, le truc où on appuyait avec les couleurs, c'est rond et on tape dessus, voilà, c'est assez sympa. Et ce qu'on essaiera de faire, c'est qu'on essaiera peut-être de faire d'en trouver un et puis de mettre la photo sur le blog pour que les gens le voient, voient à quoi ça ressemble, parce que c'est
ça, comme on avait fait avec l'instrument dernière fois. Part, ouais. Justement, ouais. Je trouve que c'est hyper intéressant justement de découvrir aussi ce genre de choses-là quand on n'y est pas habitué.
Non, puis ça balaye bien ton univers où on avait la dernière fois un instrument purement acoustique à cordes, ouais. Et là un instrument très technologique, voilà, qui mélange des sons, ouais. Et ça ressemble bien beaucoup à ce,
ouais,
que tu fais.
C'est super
agréable.
Ça reflète exactement ce que je fais. C'est assez mélange des sons qui sont très anciens et des sons qui sont très modernes. Mmh. Voilà, j'aime bien mélanger les deux.
Mais c'est cool. Alors du coup, avant qu'on passe, parce que tu nous fais le plaisir de faire un titre inédit en plus,
oui, ouais.
Ce soir à la radio et en direct, donc on peut que te remercier encore. mais par contre, avant, on va peut-être parler quand même de ton album, de comment il a été reçu. Parce que du coup, là, tu as t'as un peu de recul maintenant, parce que la dernière fois que tu es venu, il venait de sortir.
Ouais.
Être sorti. Est-ce que tu trouves que... Enfin, je suppose que tu ne vas pas dire que tu as eu une mauvaise, mauvaise réception de ton album, mais tu as eu des retours... Tu t'attendais à tous les retours plutôt positifs que tu as eus. Enfin, même, j'en ai pas trop vu de négatifs, personnellement, mais, mais t'as eu des... tu étais surpris ou tu t'es dit, tiens, ouais, j'ai fait le boulot et tout va bien.
franchement, je suis très satisfait du retour en fait de l'album, et même plus parce que je m'attendais pas que l'album plaît autant aux gens. Il faut dire que c'était un petit peu risqué de ma part par rapport au style de l'album, mais voilà, ça a plu à tout le monde, et voilà, l'album il a reçu un très bon accueil. Et ça se passe toujours bien, voilà, l'album est vendu au niveau international, et voilà.
Ça c'est quand même un sacré pas pour toi quand même, parce que le premier, c'était, tu le disais quand tu étais venu, était un peu plus confidentiel entre guillemets. Le deuxième, c'est album, un peu l'explosion pour toi.
Oui, bien sûr. Et le premier album, il était auto-distribué aussi.
Ouais.
Et le deuxième, il est distribué par une maison de disques.
Ça aide. Ah, mais c'est bien.
Et on en a parlé avant, donc on va pas faire comme si on n'en avait pas parlé. Mais tu disais, au final, sur scène, ce sera quelques titres du dernier album, quelques titres du premier, mais aussi justement beaucoup de création en fait.
Beaucoup de création, parce que je fais tout le temps de la musique, j'arrête pas de faire de la musique, je crée tout le temps. Et depuis la dernière fois et depuis la sortie de nouvel album, il y a eu un paquet de morceaux. Là, je pourrais sortir un deuxième album.
D'accord.
Mais bon, c'était des morceaux qui sont écrits comme ça, pas pour les sortir sur un album, mais je les vois bien vraiment pour le live. Parce que quand j'ai écrit ces morceaux, dans mon esprit, c'était le live, et voilà. Et il va y avoir beaucoup de surprises pour le live.
Je trouve ça énorme parce qu'au final, venir te voir ensuite sur scène, c'est comme si on avait le droit à un troisième album un peu rien qu'à nous quand on vient en concert. Quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais.
J'aime beaucoup la démarche.
C'est exactement ça.
Non, c'est chouette.
Ouais. Et il va y avoir aussi plein d'instruments typiques aussi.
Ouais.
Space.
T'aimes bien les instruments space. Hein.
Ah ouais, j'adore. Bah, en fait, je suis attiré par les sons. En fait. Ouais. Et du coup, je retrouve ces sons dans ces instruments qui sont bizarres un petit peu. Voilà.
Ah oui.
Et voilà.
Donc du coup, on va le redire avant que tu démarres ta prestation. Donc du coup, pour les Lyonnais, ça se passe le 6 décembre, c'est à 20h, c'est à la Triperie, 22 rue Humbert Colonès. Et c'est 10 euros l'entrée, on le redit, parce que bon...
Il n'y a pas de pré-vente.
Il n'y a pas de pré-vente, donc premier arrivé, premier servi. Ce qui tombe bien à la Triperie quand même.
Eh ben Mehdi, c'est...
Quand tu veux.
Quand tu veux.
Ouais, c'est parti.
Eh ben allons-y. Eh ben, merci beaucoup.
C'est énorme. Ah non, merci. Vraiment, ça fait, c'était mais fabuleux. Alors, juste parce qu'on va expliquer aux auditeurs ce qui va se passer, c'est que bah, là, on va remettre un titre juste après pour que tu aies le temps de démonter tout ça et rentrer dans te reposer. Non, t'as dit travailler toute la nuit, hein, c'est ouais, ça. Ouais. Alors, par contre, reprends le micro, sinon t'entends pas. Voilà, travailler. Et bah, du coup, quand même, bah, juste te remercier encore une fois d'être venu, déjà. Bah,
c'est un grand plaisir pour moi aussi.
Dire aux auditeurs que vous pouvez retrouver la première émission qu'on avait fait avec Mehdi sur le blog de La Causerie. Donc, vous allez sur blogs.radiocanu.org/lacauserie et là, vous cherchez Mehdi Alouane dans le petit moteur de recherche du blog et normalement, vous tombez sur l'émission, il n'y a pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas à les réécouter parce que c'était un très très beau moment.
Et puis rendez-vous donné le 6 décembre,
voilà,
à la Triperie à Lyon, dans le premier arrondissement. Et puis ben.
Ouais. Et puis juste quand même, parce que par curiosité, comme on est filmé, tu vas mettre ça quelque part. Et où les auditeurs qui voudraient te voir jouer, vu que c'est filmé, où c'est qu'ils vont pouvoir trouver cette vidéo du coup?
Elle sera sur Facebook.
Ok. Sera,
bien sûr. Avec l'autorisation de Radio Canu.
Oh, mais l'autorisation est donnée par là. Là, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est plus. Voilà, parce que je pense qu'il y a des gens qui seront épatés de voir que ce qu'ils ont entendu, d'où ça venait. Ouais, en fait, voilà.
Et c'est juste pour donner en fait, une petite idée en fait, sur le concert, en fait, comment ça va être un petit peu. Voilà, pour qu'ils puissent avoir une idée. En fait.
Parce
ça va être vraiment spécial.
Ça fait envie. Hein.
Ça fait envie.
Vivement le 6 décembre.
Le 6, en fait.
Bon, bah, Mehdi, un grand merci. Ouais.
Un grand merci à vous aussi.
Et puis, bah, nous, on va continuer. Donc, on met un peu de musique, t'as le temps de démonter tout ça, et à bientôt.
À bientôt.
Merci
encore.
Mais à tout de suite, les auditeurs.
Et auditrices.
Et auditrices. Ami auditeur, tu te dis, mais on passe d'un son à l'autre comme ça et... Ben ouais, c'est les aléas du direct. Et puis ben, des fois, on fait une petite photo avant de partir. Et puis ben, on dépasse le titre. C'est pas grave, tu nous en veux pas. En tout cas, on vient de s'écouter Björk avec le titre Enjoy, et c'est tiré de l'album Telegram de 96. Voilà, Mehdi termine de ranger son matériel et moi je vais commencer ma petite chronique. J'ai vraiment l'impression d'être tout seul.
Tu serais pas un peu en train de meubler là?
Si, c'est un peu ça. Et alors, en fait, on est en format un peu différent, etc. On a eu un live. Et là, on s'est dit, on va faire quelques petites chroniques. Et moi, j'avais envie de parler, en fait, d'un artiste qui peignait les rêves des SDF. Alors, pourquoi envie d'en parler? Parce que je trouve que ça... En fait, moi, quand j'ai vu l'info, ça m'a directement interpellé. Parce que je me suis dit, tiens... Qu'est-ce que c'est que ça que de peindre les rêves des SDF, sous quelle forme, etc. Et en fait, déjà, je vais vous donner le nom du graffeur, c'est Skite Robot. Donc, c'est un graffeur de Los Angeles, en fait, et qui dessine des bulles, en fait, sur les murs, sous lesquels, en fait, dorment les SDF de Los Angeles. Et dans ces bulles, en fait, il y met... des images, pour certains ce serait des rêves, effectivement, ça peut aller mettre du lit basique à une voiture, à des cocotiers, à des décors un peu plus imaginaire et tout ça. Et au final, c'est vrai que ça peut soulever une question, est-ce que au final, pour faire de l'art, il s'est servi des SDF? Est-ce que son art met les SDF plutôt en lumière? Enfin, je trouve que ça soulève vraiment beaucoup de questions. Alors, merci Clara de m'écouter. Ok. Et donc voilà. Enfin, moi, j'ai pas forcément de réponse toute faite et tout, mais en tout cas, l'artiste lui-même, en fait, il s'est senti, selon ses propres mots, il s'est senti comme un enfoiré, en fait, se servant des SDF pour réaliser ses œuvres. Et donc, il s'est dit, bon ben. Je vais au moins leur filer un truc, des produits de première nécessité, que parce que effectivement lui-même ça lui soulevait, ça l'interrogeait sur le sens de toute cette démarche. Et donc voilà, enfin moi j'ai partagé cette info avec plusieurs personnes. C'est pas office, ça fait pas office hein, de grand test sur un ensemble représentant la population, mais en tout cas enfin c'est effectivement ça soulève des questions. Si on se dit, on est un peu dérangé peut-être au début, mais en même temps moi je me dis, par le biais de ces graphes, en tout cas d'un coup il rend visible des gens qui dorment le long des murs et qu'on n'a pas envie de voir, que la société dans laquelle on vit, capitaliste, de compétition, etc., n'a pas envie de voir. On les rejette, on veut pas. Ça fait partie effectivement des gens dans cette société qu'on ne veut absolument pas voir. Donc voilà, enfin c'est. J'ai pas forcément 15 000 choses à dire là-dessus, mais en tout cas, voilà, je voulais partager cette info parce que je me disais que ça pouvait être intéressant, bah, que chacun à notre niveau, à notre échelle. Ami auditeur, j'ai dit au revoir à midi. Ciao, merci. Donc voilà. J'en étais où? Tu peux me dire, Clara, j'en étais où? Tu sais plus. Bah super. Ami auditeur, si tu te souviens où j'en suis, bah appelle-moi. Non, donc voilà, c'était effectivement juste s'interroger sur des démarches artistiques, encore une fois. Il s'agit pas de blâmer, mais c'est plus, encore une fois, s'interroger sur le sens de l'art, sur le sens de tout ça. Donc voilà, et ben je crois que Fab est de retour avec moi. Ouais, il est de retour avec nous. Alors qu'est-ce que t'as envie de dire, Fab?
Hop là.
oui, je suis là. Non mais c'était un peu particulier, mais bon voilà, c'était bon, avoir du live, démonter les instruments, ça. Non, moi je voulais dire par rapport à ce que tu présentais et ce que tu disais pour cet artiste qui avait l'impression d'être un enfoiré. Enfin moi j'ai lu l'article, j'ai trouvé ça très intéressant, l'interrogation qu'il avait. C'est que c'est drôle que je trouvais très drôle que cet artiste qui finalement visibilise à mes yeux la condition des SDF, c'est ce que tu disais aussi, et pour moi ça va dans ton sens, et je trouve que c'est plutôt positif de dire aux gens, regardez, là, il y a quelqu'un qui est en train de dormir quand il est au sol. Je trouve c'est plutôt, moi, je trouve ça très positif. Dans le sens où ça interroge. Mais ce qui est drôle, c'est que lui soit posé des questions, alors qu'il y a des tas d'artistes qui font des tas de trucs, mais vraiment merdiques. Je veux dire, voilà. Et qui eux ne se posent, mais alors, aucune question.
C'est
donc, je me suis dit, c'est quand même, enfin, je me suis dit, il a quand même une éthique qui est très poussée, parce que, aller s'interroger jusqu'à se dire, peut-être que j'utilise trop, mes modèles, qui ne sont en fait finalement pas ses modèles, parce que tout ce qu'il lui disait, c'est ce qu'il voulait qu'il peigne. Donc finalement, bah, ouais, c'est plus ses commanditaires que ses modèles en termes artistiques, c'est-à-dire fais-moi un tableau de ça. Et alors là, c'est du graphe. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est l'éthique qu'il a mis derrière. Et je trouve que si il y avait plus d'artistes qui avaient ce genre de questionnement éthique derrière leur art, on aurait plus d'art subversif. Et du coup, pour moi, c'est en ça qu'il est même subversif, c'est et parce qu'il peint et parce qu'il a de l'éthique. Voilà.
Oui, effectivement.
Je voulais juste dire ça parce que je me suis dit, ils vont passer de la musique avant que j'aie le temps de le dire. Et je suis revenu et voilà, donc j'ai pu le dire.
Tu veux qu'on passe de la musique tout de suite ?
Non, moi je peux enchaîner sur mon sujet si vous voulez.
Ben ouais.
Ouais, ça vous va ?
Ouais.
Totalement autre chose. Partons dans les étoiles. Voilà.
Ah oui, on part dans les étoiles.
Allons nous balader. Donc, amis auditeurs et auditrices de la causerie, vous savez que Fab, il parle d'environnement, puis des fois, il parle d'espace. Bon, non, en fait, j'en avais jamais parlé. Je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous parler de Rosetta. Et Rosetta, c'est la sonde européenne. Alors, je rappelle, quand on dit sonde européenne, c'est vraiment européen. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui ont participé à l'élaboration de ce programme. Et en fait, ça dépend comment on compte. Il y en a qui disent c'est 15, d'autres qui disent c'est 20. Parce que ça dépend si vous comptez ceux qui ont lancé ou pas la sonde. Enfin, voilà. Mais en gros, il y a beaucoup de pays. Voilà. Retenez ça, c'est que c'est une vraie collaboration entre plein de scientifiques qui avaient à peu près rien à faire de savoir de quelle nationalité ils étaient, qui s'engueulaient pas entre eux pour dire oui, nous, on est les meilleurs, on est le plus fort parce qu'on a la fierté nationale ou je ne sais quelle autre connerie, mais qui avait juste envie de se dire, tiens, si on envoyait une sonde qui allait choper une comète au vol, typiquement c'est ça, pour aller voir ce qu'il y a dans une comète. Vous voyez, c'est une idée comme ça un peu folle, mais elle est juste magnifique, l'idée. Alors la sonde Rosetta, elle a mis 10 ans à atteindre la comète, hein, vous avez déjà dû entendre parler, elle a fait 6 milliards de kilomètres. Voilà, j'essaie de vous représenter ce que ça fait, bonne chance. Et là, elle se trouve à 511 millions de kilomètres de la Terre. Voilà. Vous voyez, c'est un petit truc. Non, mais c'est pour vous dire qu'elle est très loin. Hein, voilà.
Je crois qu'elle est assez loin.
Elle est très très loin. Et du coup, qu'est-ce qu'on est allé chercher là-haut? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est quel était le but de ce programme spatial? Alors Rosetta, en fait, elle a emmené avec elle un robot qui s'appelle Philae. Et Philae, c'est un robot qu'on a largué sur la comète, qui est aujourd'hui sur la comète, qui est maintenant en mode veille, parce qu'en fait, il est plus au soleil, et comme il est alimenté que par des panneaux solaires, ben, du coup, voilà, il est en mode veille pour pouvoir se réveiller si la comète se tourne dans le bon angle et qu'elle est de nouveau au soleil, parce que ça, ils en sont même pas sûrs. Mais au moins, il a réussi à envoyer des tas de données depuis qu'il est sur la comète. Alors, d'abord, il a envoyé une chose qui a été la première donnée qui a fait rire les journalistes, mais qui est d'une importance capitale, c'est qu'une comète, eh ben, ça sent l'œuf pourri et ça sent le fumier. Alors quand on dit ça, les journalistes se font « Oh, pourquoi faire des millions de kilomètres pour savoir qu'une comète ça pue ?» Ouais, ben, en fait, c'est pas ça le problème, c'est que ça veut dire qu'il y a des matières organiques. Parce que si ça sent le fumier et que ça sent l'œuf pourri, ça veut dire que sur une comète, vous avez des matières organiques. Et qu'est-ce qu'on est allé chercher là-haut? Eh ben, on est allé chercher si il n'y aurait pas de la vie, ou du moins les éléments qui permettent de donner la vie. Parce que clairement, on sait qu'il n'y a pas de vie sur une comète, hein, ou alors elle est vraiment costaud, la vie, là. Mais on sait qu'il peut y avoir les éléments fondateurs de la vie. Et c'est justement ça qu'on est allé chercher. Parce que depuis des siècles que la science moderne existe, comme on dit, enfin que la science existe et que les hommes s'interrogent, la question d'où je viens est la question qu'on se pose le plus. Alors, il y a la réponse facile, celle des religions, hein, qui est « Dieu m'a créé ». Voilà, et Dieu c'est tout, voilà, comme ça, ça
coupe court
à toute discussion. Et puis il y a la vision un peu plus scientifique, on va dire, quand même, même très scientifique, qui est de se dire, bah tiens, la vie est apparue sur Terre il y a tant de milliards d'années, et qu'est-ce qui fait que la vie est apparue à ce moment-là? Pourquoi ces éléments-là étaient présents sur Terre? Est-ce qu'ils y sont nés? Est-ce que la Terre s'est formée avec ces éléments ou est-ce qu'ils viennent de l'espace? Et aujourd'hui, ce qui tient un petit peu la dragée haute, on va dire, c'est que a priori, les éléments qui ont permis à la vie, donc à l'ADN, en réalité, hein, c'est ça dont on parle, à l'ADN de se créer, sont plutôt issus de collisions cosmiques, c'est-à-dire c'est des morceaux d'astéroïdes, de comètes qui ont heurté la planète et qui contenaient ces éléments. C'est-à-dire qu'on pense que sinon la Terre serait stérile, en fait. Voilà. Oui, tu allais dire une bêtise. Je sens que tu vas dire une bêtise.
Non, c'est, je suis en train de me dire, on fustige les religions, mais à quelque part, est-ce que Raël n'aurait pas un peu raison?
Raël. Non, non plus. Ni la scientologie. Des, voilà.
Non, mais c'était juste pour me moquer d'eux aussi.
Non, mais ce qui est intéressant, enfin, moi, ce que je trouve justement, ce qui est très intéressant, c'est que la démarche qui est là, en fait, c'est une vraie démarche altruiste. C'est-à-dire, c'est l'idée d'aller juste chercher d'où on vient. On ne va pas chercher sur la comète autre chose que est-ce qu'il y a les éléments pour faire la vie? Est-ce que si une comète était rentrée en collision avec la Terre il y a 3, 4 milliards d'années, ce qui a été le cas, on sait qu'il y a eu des grands cataclysmes qui ont frappé la Terre dans son histoire, qui est longue, elle a 4 milliards d'années, la Terre, à peu près. Donc, du coup, l'idée, c'est est-ce que les éléments qui ont donné la vie ne seraient pas extraterrestres? Mais pourquoi on se pose cette question? Parce que s'ils sont extraterrestres, ça veut dire que la vie peut avoir lieu ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'il y a très peu de chances, déjà, on le sait, hein, statistiquement, qu'on soit seul dans tout cet vaste univers. Hein, je vous rappelle qu'il y a des milliers de milliards d'étoiles et donc autant potentiellement de planètes autour de ces étoiles. Donc vous voyez un petit peu le nombre de planètes qu'il peut y avoir. Donc on sait qu'il y a sûrement la vie ailleurs. Mais par contre, il faut prouver que la statistique peut être vraie. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'élément qui dit si on peut affirmer que la vie est ailleurs parce qu'on a trouvé ça à tel endroit. Et si on trouve, parce que c'est ça que les scientifiques sont allés chercher, si on trouve que sur la comète Chury, parce que je ne vais pas vous dire son nom en entier, elle est imprononçable, vous avez de quoi des éléments qui pourraient donner les prémices de la vie, c'est-à-dire les éléments de base de l'ADN, et ben vous pouvez prouver qu'une collision de comète ou une collision de morceaux de comète sur d'autres planètes qui auraient des conditions pour que la vie apparaisse, la vie a de très grande chance d'apparaître comme elle est apparue sur Terre. Et c'est ça qui est fabuleux. Et ce qui est fabuleux dans cette histoire-là, c'est que tout de suite, les religions ont réagi.
C'était la question qui me venait là.
Et
tout
ben
de
oui,
suite.
Parce que tout de suite, le Vatican a dit « Ouais, bon, faut peut-être pas prendre pour argent comptant tout ce que vont dire les scientifiques. » Bah oui, évidemment, parce que d'un seul coup, la Dieu unique, les seuls dans l'univers, tout ça, ça marche plus trop. Hein, donc voilà.
Alors, c'est drôle, alors qu'effectivement, il faut gober tout leur discours à la lettre. Quoi. Surtout par mes deux doutes sur la religion.
Exactement.
Vous êtes
alors, alors, ce qui est drôle, j'ai trouvé aussi en tapant sur Internet, il y a une fatwa contre Rosetta. Hein, donc voilà, il y a donc un imam, ou un, je ne sais pas si c'est un imam, ou un cheikh, je ne sais pas qui est lequel des deux fait les fatwas, qui a décrété qu'il fallait faire une fatwa sur Rosetta. Donc si elle revient sur Terre, ce qui n'est pas prévu, faut l'égorger.
On l'égorge. Ok, voilà.
Je ne sais pas, mais c'est assez ridicule. Quoi. Enfin, voilà. Et bon, alors, a priori, les protestants et les juifs ne se sont pas encore prononcés. Mais je trouve ça plutôt très intéressant de voir qu'il y a eu tout de suite cette réaction un peu épidermique de dire, oulala, attendons, là, ils vont peut-être nous dire un truc qui va remettre en cause tout ce qu'on notre dogme, alors on va surtout vite blinder en disant c'est de la connerie, quoi. Oui,
la science et le savoir sont quand même les ennemis des religions. Hein.
Le matérialisme est l'ennemi de la religion.
L'ennemi de la religion, hein.
Donc voilà, alors juste quand même pour dire que pour essayer de tuer ça, ils ont lancé une campagne, alors c'est notamment des think tanks d'extrême droite qui ont lancé ça pour dire ouais, mais ça coûte super cher hein, d'aller dans l'espace, tout ça, et on ferait mieux de construire des hôpitaux. Il est bien connu que l'extrême droite a qu'une seule envie, c'est de construire des hôpitaux.
Oui,
ça se saurait. Tout comme la droite libérale d'ailleurs. Donc voilà, donc du coup, ils ont lancé ça. Alors, juste quand même pour recadrer un petit peu ça, je voulais dire que Rosetta, tout ça, tout le programme hein, de A à Z va coûter 1,2 milliard d'euros. Alors là, ça paraît énorme, sauf qu'il faut se rappeler que c'est sur 10 ans, oui. Hein, et pas sur un an. C'est sur 10 ans, c'est étalé sur 10 ans. Ça veut dire qu'en gros, chaque année, ça vous a coûté 20 centimes. On est 500 millions d'Européens. Ça a coûté 20 centimes par Européen d'aller voir et d'essayer de trouver l'origine de la vie. Moi, je trouve ça juste génial de mettre 20 centimes par an, oui, pour pouvoir dire, tiens, d'où on vient. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant et c'est une très belle odyssée, au sens premier du terme. C'est-à-dire, vraiment, il y a la volonté de dépassement dans
oui,
tout ça. Quoi.
Philosophiquement, je trouve que c'est...
Ah, mais c'est fabuleux.
C'est hyper intéressant. Quoi.
Et ce qui est très drôle, c'est que ces lobbies qui ont lancé cette truc un peu pourri, ils oublient de rappeler que chaque année, en France, hein, on dépense 38 milliards d'euros pour l'armée. Hein. 38 milliards, 1 milliard 2 sur 10 ans, 38 milliards par an. Donc, je pense que pour faire des hôpitaux, il y a moyen de trouver ailleurs.
Un milliard sur l'Europe,
sur
38
l'Europe.
Milliards sur
la France.
70 millions d'habitants français.
Voilà.
Quoi.
Donc pour être très clair, c'est juste ridicule de parler. Voilà. Surtout que, comme l'a rappelé Hubert Reeves sur un plateau de télé dont je ne me rappelle plus, en plus, il faut penser que ce milliard-là, il n'est pas investi dans l'espace. C'est-à-dire, c'est pas Rosetta qui a coûté cher. C'est les ingénieurs, en fait. C'est des gens que vous payez sur place, sur Terre, qui. Voilà, parce que c'est des équipes énormes. Hein. On n'imagine pas, mais il y a des milliers de personnes qui travaillent sur le programme européen. Et ces personnes-là, elles sont payées. Et comme il le disait, bah, comme elles sont payées, ça relance l'économie à l'endroit où elles, où elles sont payées. Parce que du coup, vous avez des besoins qui... Donc, c'est pas de l'argent foutu en l'air, contrairement à ce que les gens vont vous dire. Contrairement à l'armée, parce que quand vous lancez une bombe, ah si, ça relance l'économie, c'est qu'il faut reconstruire. Bon, bref. Et puis creuser pour les tombes. Ah, c'est un peu mieux d'aller voir l'espace, je trouve, quand même. Mais voilà, donc juste quand même, je voulais vous parler de ça, parce que je trouve que c'est un très beau truc. Et juste deux petites dernières infos, et après on lance la musique. La première, c'est que vous pouvez écouter Rosetta. Elle a son SoundCloud.
Oh, elle a un SoundCloud, Rosetta.
Oui. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, l'agence européenne a décidé de mettre en ligne tout ce qu'il trouvait. Et ça, je trouve ça génial. Mmh. C'est-à-dire, c'est un partage total envers l'humanité. C'est pas du tout, il n'y a pas de volonté de garder des choses. Il y a une volonté de le partager au maximum. Et moi, je trouve ça très beau. C'est-à-dire de dire, on fait de la science pour la science. Et pour l'ensemble de l'humanité. Pas juste pour l'Europe, vous voyez. Et donc, ils ont mis un SoundCloud. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que la comète émettait un son. Alors, ils savent pas si c'est la comète qui émet un son ou si c'est Rosetta qui émet un son parce qu'elle est heurtée par des micro-bouts de comète, mais je vous invite à aller l'écouter, vous allez sur SoundCloud, vous tapez Rosetta et vous trouverez, et c'est assez génial, on dirait popcorn. Mais en fait, c'est pas tout à fait popcorn, mais en fait, c'est le son multiplié 10 000 fois de ce qu'entend Rosetta, et c'est juste magnifique de se dire qu'on écoute un objet céleste, et moi je trouve ça, enfin voilà, je trouve ça très beau de pouvoir entendre quelque chose qui a 511 millions de kilomètres de l'être humain. Et la deuxième chose, c'est donc, je vous invite à aller sur le site de l'agence européenne, vous tapez agence européenne de l'espace, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Vous allez tomber sur le site, il est en français, en allemand, en anglais et dans plein de langues. Et ils ont fait un truc assez génial, ils ont... oui, je suis très emballé. Ils ont fait des diaporamas, des photos qu'a pris Rosetta et des photos qu'a pris Philae. Donc vous pouvez voir la surface de la comète, vous pouvez observer la comète vue de Rosetta. Et ça paraît très bête comme ça, mais moi je trouve que c'est juste pareil, fabuleux de pouvoir se dire qu'on est en train de regarder un objet qui est à 511 millions de kilomètres de la Terre. Et surtout, ils sont très didactiques, c'est-à-dire qu'ils vous expliquent toutes les découvertes qu'ils font au fur et à mesure, et je trouve ça très très bien. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, par exemple, ça sent le fumier et ça sent ça, et après il y a un petit article qui vous explique que ça veut dire qu'il y a des matières organiques, que ça veut dire que donc la comète est composée de ce que je disais, hein, qui peut peut-être potentiellement ce qui pourrait amener la vie, voilà, et que c'est peut-être les comètes qui ensemencent les planètes. Et ça, c'est beau parce que il y a un chanteur, Moby, qui chantait We are all made of stars. Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles. Bah, finalement, c'est sûrement vrai, quoi. Voilà.
Oh, ouais, c'est joli. On met un peu de musique.
Ah oui, ça a coupé un peu de façon abrupte, pardon. Vous êtes bien dans la causerie, 22-23 sur Radio Canu. Et là, le titre, c'était Fuzz avec What's in my mind. Non, What's in my head, pardon. Je vais y arriver. Ce soir, c'est dur.
Ouais, j'ai l'impression que la causerie de ce soir est un peu
Ouais, mais pourquoi ce titre? Bah, parce qu'en fait, il y a très longtemps que j'avais pas passé de psyché rock. Et que moi j'aime beaucoup le psyché rock et puis que je me disais qu'après être allé se balader dans l'espace, bon, c'était bien de continuer à planer un peu. Voilà. Et on a oublié de dire au début que vous pouvez nous envoyer vos avis sur l'émission sur le mail lacauseriecanu@gmail.com ou sur le blog. Hein, donc vous allez sur les blogs de Radio Canu, La Causerie, et puis vous laissez des commentaires, ça nous fait super plaisir.
Oui, n'hésitez pas.
On mettra l'émission d'aujourd'hui en ligne le plus vite possible.
C'est ça. Bon, ben, je vais me lancer.
Ah oui,
en fait.
Oui, pardon, parce que je suis complètement paumé. Et donc, Jean-Yves, tu voulais, après avoir parlé d'un gars qui dessine les rêves des SDF, tu voulais nous révéler que Banksy était une femme.
Ouais, t'imagines le scoop, hein, un truc de fou. Hein. Non, encore une fois, enfin, ouais, vu que j'étais sur cette tendance un peu street art, etc., je suis tombé sur un article aussi où. Non, le titre est vraiment, c'est vraiment ça. C'est, et si Banksy était une femme, tu vois, c'est, je sais pas, on sait pas. Est-ce que c'est dramatique? Est-ce qu'on sait pas trop? Mais en tout cas, j'ai trouvé. Alors l'article, il est franchement pourri.
Clairement quoi.
Je vais vous donner quand même 2-3 extraits, mais qui, en fait, c'est tout est parti d'un journaliste qui s'est dit, voilà, moi, je vais vous expliquer pourquoi Banksy est potentiellement une femme.
C'est pas une journaliste?
Si, c'est une journaliste, pardon.
Ce qui rend encore le truc pire, je trouve.
C'est une journaliste, effectivement.
Ok, c'est ça. Là.
Et alors, avant elle, il y avait un artiste, il y avait un autre artiste canadien, et un artiste canadien, pardon, qui s'appelait Chris Halley, qui affirme, en fait, lui, depuis 2010, que Banksy est une équipe de 7 artistes menée par une femme. Mais encore une fois, on n'en a absolument aucune idée.
Et en plus, on s'en fout.
On s'en fout, effectivement, mais c'est
non, mais
c'est...
je veux dire que ce soit une femme ou un homme ou 10 personnes, ce qui est important, c'est Banksy. C'est-à-dire, c'est l'œuvre, quoi, en elle-même.
Ouais, et en même temps, je trouve que c'est... Enfin, ou alors, c'est peut-être moi qui suis un misogyne qui vraiment se voit pas, ou un machiste, ou j'en sais rien, mais moi, personnellement, effectivement, l'idée que Banksy est une femme, c'est pas forcément le truc qu'on entendait le plus, quoi. C'est-à-dire que
dans
l'imaginaire, je pense, assez général, c'est Banksy, on colle directement l'idée que c'est un mec. Alors c'est peut-être moi qui fais ce raccourci-là.
Non, je pense que c'est toi qui as raison. C'est-à-dire que par définition, on est extrêmement machiste dans le sens où dès qu'on parle d'un artiste, on ne dit jamais une artiste, même quand c'est une femme. Souvent, on dit, ah oui, bah, quel artiste. Alors, ça évite de donner des... Mais c'était juste que moi, à titre personnel, si Banksy est une femme, ça ne me changera rien à ma vie. Ça, je trouve ça chouette.
Ah non, mais on est d'accord. Enfin, mais non plus. Hein, c'est juste, encore une fois, je trouve que c'est intéressant de s'interroger sur un truc qui, au final, je sais pas combien de personnes, même celles et ceux qui nous écoutent, combien se disaient, tiens, Banksy, c'est une meuf. Mmh.
Non, oui, c'est clair. Hein.
C'est plus ces automatismes-là, en fait, que j'avais envie un peu d'interroger, on va dire. Et c'est pas du tout pour jeter.
On a compris.
À boulet, ouais.
Et par contre, du coup, tu peux nous donner des extraits de l'article.
Ouais, l'article, quand même, c'est assez magnifique, en fait. Donc, cette journaliste pense que Banksy est une femme parce que l'artiste montre une plus grande capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est vrai pour ses thématiques de justice sociale, mais aussi dans sa manière d'anticiper l'interaction avec celle qui verra son travail. Donc, ce qui fait que, en fait, c'est une femme.
Oui, c'est ça, c'est que la fameuse empathie féminine.
C'est ça, ça ne peut que être féminin.
Quand maman, elle sait avant même le petit ou la petite qui s'est blessée. C'est le truc d'une connerie, ça,
c'est
pardon.
Ça. Et que ça continue. Alors, Kristen Capps explique aussi qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet dans le monde de l'art, les meilleurs artistes du selfie sont des femmes et que cela constituera un argument en faveur de sa théorie. Voilà.
J'adore. C'est bourré de clichés de merde, quand même.
Oui, je trouve aussi. C'est quand même énorme. Mais ça soulevait une question que je trouvais intéressante quand même aussi.
Oui, non, mais d'accord. Oui.
Mais effectivement, enfin, ça repose sur rien, hein, sa théorie. Enfin, c'est même pas une théorie, quoi. Et donc, après, parce que l'identité, en fait, de Banksy, il joue quand même vachement avec.
Ah bah oui.
Parce que je veux dire, autant il y en a qu'on connaît leur visage. Hein. Je veux dire, là, cet après-midi, j'ai fait des recherches, on connaît leur visage.
Oui.
Donc, c'est bien qu'il y a quand même... Autour de toute cette idée-là, il y a une volonté de Banksy, ou du collectif, j'en sais rien, en tout cas, de semer le trouble autour de tout ça.
Bah, c'était le cas avec le faux article qui a été sorti sur un truc genre le Gorafi mais anglais, avec Banksy a été découvert. C'est un homme de 42 ans qui vit de classe moyenne, alors que c'était un truc monté de toutes pièces, a priori même par Banksy lui-même, pour brouiller encore plus les pistes.
Ok,
quoi.
Bah moi j'ai pas, enfin celle-ci, cette info-là, moi je l'ai pas, mais en tout cas, c'est dans, déjà en 2003 en fait, il y a le Guardian, donc un journal anglais, avait rencontré dans un pub de Bristol un homme qui se présentait comme Banksy. Mais le journaliste, au final, il n'était pas convaincu de son identité, parce que en fait, le gars, en tout cas, qui l'a vu, lui a dit... Vous n'avez de garantie sur rien du tout. Et je trouve que rien que ça, c'est déjà génial. J'adore cette idée de jouer avec tout ça. Et puis, dans un doc que je crois que j'avais chroniqué ici, qui s'appelle Faites le mur, c'est justement un documentaire ou un faux documentaire, en fait, formanté par Banksy pour dénoncer les dérives de l'art contemporain. Au final, Banksy, encore une fois, on ne le voit jamais. C'est un, on voit une silhouette, on entend une voix qui elle-même est transformée, on ne voit rien, il n'y a aucun trait de la personne. Donc il y a quand même toujours un jeu autour de cette identité-là, et ce qui fait qu'au final ça excite aussi les gens d'aller chercher ça.
Ouais,
quoi.
Ouais, et puis il y a le jeu dans le film de mettre en avant Mr. Brainwash, qui sort d'à peu près nulle part, et qu'on se dit non mais là il se fout un peu de notre gueule, puis d'un coup on découvre que le gars il a fait une pochette pour Madonna,
effectivement. Voilà. C'est tout sur l'art, qu'est-ce que c'est que l'art, c'est, et l'éphémère et tout ça. Donc voilà, donc moi après c'était une petite info comme ça à partager, parce que je trouvais ça encore une fois assez drôle et que ça interroge tout ça, et je voulais quand même vous filer 2-3 infos, parce que justement je trouvais que c'était intéressant. Alors déjà je voulais filer quelques noms de street artistes féminines. Alors peut-être que le plus simple, c'est que je vais les mettre sur le blog. Sur le blog. Je voulais quand même vous en citer 2-3, parce que je trouve que c'est encore une fois intéressant. Il y a Shamsia Hassani, c'est une graffeuse afghane. Ouais. Et elle graffe des meufs, enfin des femmes en burqa.
Ouais, ouais.
Donc c'est hyper intéressant. Enfin, la démarche, en tout cas, je trouve que la meuf, elle prenne une bombe et qu'elle aille peindre des murs. La démarche, elle est déjà sous une certaine forme, elle est déjà révolutionnaire. Donc voilà, ça c'était hyper intéressant. Et après, enfin, il y en avait une autre aussi, c'est Olek. C'est une artiste de New York qui fait du crochet. C'est franchement à voir. Ouais, je commence à voir 2-3 trucs autour du crochet. Ça peut être assez drôle et assez subversif.
Ouais, clairement.
Et ce qu'elle fait, c'est assez joli. Et puis après, enfin voilà, les autres, je vous les donnerai sur Facebook.
Non, mais vas-y, donne 2-3 autres noms.
Bah, y a Smoon, c'est SW2ON, c'est une artiste new-yorkaise.
Ouais.
Il y a aussi Alice Misrahi de New York. Il y a Face 47 qui vient d'Afrique du Sud, et moi je vous ai choisi celle qui me touchait le plus, quoi. Mais je trouve qu'il y a des très beaux traits, etc., et que là encore une fois il s'agit pas de dire c'est une très bonne artiste parce que c'est une femme, c'est juste voilà, il existe de bons artistes de tout genre et de tout sexe, et que c'est intéressant. Voilà. Et une dernière news avant qu'on attaque les brèves locale.
Oui, amis auditeurs et auditrices, il n'y aura pas après nous les yeux grands ouverts. Il nous a prévenu, il ne sera pas là ce soir.
Donc vous avez le droit à la causerie jusqu'à minuit.
Non, je déconne.
Et donc autour de Banksy, je voulais quand même filer une info. On en avait parlé, je crois, ici, sur le fait que Banksy à New York cet été, c'était pas l'été dernier. C'était en
2013, je crois.
C'était en octobre 2013. Il avait, en tout cas, on a retrouvé des toiles à lui vendues à $60 en plein cœur de New York, et que c'était des toiles Banksy, quoi. Et en fait, tout ça, c'était dans le cadre de Banksy à New York, on va dire. Et en fait, pendant un mois, du 1er octobre 2013 jusqu'au 31, l'artiste de rue britannique, il a lancé, on va dire, une résidence autoproclamée à New York, et affichant une exposition unique par jour dans un endroit à l'improviste. Et ce qui fait qu'au final, c'est devenu une vraie, une chasse au trésor, quoi, un petit peu. Et il y avait donc, moi je sais qu'il y en avait 2-3 qui avaient fait parler. C'était donc ces tableaux qui étaient vendus à $60, alors que dans les salles de vente.
Il y en avait même moins cher que ça.
Ouais.
Parce que tu pouvais marchander avec le mec, c'est ça qui était énorme, c'est que le type de lui-même baissait le prix des tableaux. Ce qui en plus faisait encore plus hurler les vendeurs.
Mais oui, c'est ça, parce qu'au final, Banksy, ça s'arrache à des centaines, voire peut-être à des millions d'euros, et que, encore une fois, c'est hyper courageux comme démarche. Et il y avait aussi celle où en fait il avait fait traverser une partie de New York, j'ai pas suffisamment la géographie en tête, mais
je crois que c'est Harlem,
et où au final il a fait passer un camion de transport d'animaux avec des peluches.
Ouais. Et des peluches qui bougeaient comme ça. Et au final, ça a heurté les gens à New York. Hein. D'ailleurs, je crois que le maire de New York avait déclaré un peu que c'était
un. Il voulait faire interdire
Banksy. Oui, c'est ça. Même. C'était un bandit, quoi. C'est... et donc voilà.
Je crois qu'il avait parlé de terroriste intellectuel, ce qui est quand même une nouvelle notion.
Oh, bah, c'est bien sûr de l'extrême droite, ça, pour dire ça.
Ouais, ouais.
Et donc voilà. Et donc...
Bah, c'était Bloomberg à l'époque. Hein.
Et donc, en fait, tout ça, ça a été. De tout ça, il y a un documentaire qui va être diffusé. Alors, c'est sur HBO. Voilà, ça s'appelle Banksy 12 New York. C'est le 17 novembre, donc c'est demain. Donc foncièrement, je ne sais pas si on va arriver à le choper d'une manière ou d'une autre.
On peut tout trouver sur internet.
Mais je pense que foncièrement, ça peut être hyper intéressant parce que ce qu'ils disaient, c'est qu'ils ont essayé de prendre des images de qui ils avaient. C'est-à-dire qu'il y a plein de passants, dès qu'ils voyaient un truc qui commençait à prendre forme, ils disaient « Oh mais attends, là il y a un truc de Banksy quoi !» Donc au final, c'est plein de photos et d'images, etc. qui sont sûrement prises un peu à la volée. Mais je trouve qu'encore une fois, là aussi, il y a quelque chose de... L'art doit gratter au final. Un art consensuel, à mes yeux en tout cas, c'est pas quelque chose qui gêne quoi. Quand tu déranges pas la norme, la morale, etc. Oh, ça fait chier quoi. Je pense que voilà, et Banksy, moi j'aime vraiment beaucoup pour ça, c'est que quasi toute action et toute œuvre qu'il fait, c'est quand même toujours très, ça gratte beaucoup les gens quoi. Donc voilà, ben je vous filerai encore des liens sur le blog.
Sur le blog.
Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de parler encore une fois de cet artiste.
Et oui, parce que l'émission devient totalement interactive. Vous avez une partie à la radio et une partie sur le blog.
Oui, et en même temps, non, ceux qui n'ont pas internet, ça les exclut voilà. aussi un petit peu.
Non, mais moi, s'ils n'ont pas internet, je les invite à passer à l'émission. Parce qu'ils peuvent venir, on
oui,
est
aussi.
Là,
c'est
et
vrai.
Puis on discutera, on pourra leur donner nos infos sans problème.
C'est vrai.
Puis s'ils viennent avec un peu de bière, c'est encore mieux. ah oui, j'avais dit que je le faisais. Ouais, c'est les brèves.
Super, vraiment, c'est les moyens.
Moi, j'improvise des jingles à 3 balles. Hein, donc voilà.
C'est des moyens de fou. Donc... Brève, à 23h on donne des brèves. Allez, on y va. Fab,
je vais continue. Commencer
ouais, sur le mois.
Ben en fait, c'est sur le mois libertaire et cette semaine sera très cinématographique. Ouais. Donc ça commence le lundi 17 novembre, donc demain soir, donc c'est à 20h, c'est au Comédia, 13 avenue Berthelot, le prix d'entrée maximum, parce qu'il y a des tarifs selon l'âge et selon les si vous êtes chômeur, tout ça, c'est 8,60€, c'est le prix d'une place de cinéma, hein, tout simplement, et c'est Johnny Got His Gun de Trumbo, en fait, je dis jamais le D, donc je sais pas pourquoi ils ont mis le D. Voilà, donc c'est un film sur un jeune américain qui décide de s'engager pour aller sur le front de la Première Guerre mondiale. Et c'est un des premiers films antimilitaristes américains. C'est vraiment à voir. Parce qu'en fait, ça a été fait, alors je vous explique un petit peu, ça a été fait en 71, en pleine guerre du Vietnam, et comme on n'avait pas le droit de parler de la guerre du Vietnam directement, il a parlé de la Première Guerre mondiale, mais comme la logique était totalement la même, c'est assez génial. Et il faut vraiment le voir parce que, c'est toute la notion de l'engagement quand on est jeune, qu'on croit vraiment défendre des idéaux, que d'un seul coup on prend un obus dans la gueule, parce que c'est ce qui arrive à ce pauvre Johnny, et qu'on se retrouve à devoir réfléchir à ce qu'on a fait, et c'est vraiment, vraiment très, très bien. Voilà, c'est pas très très joyeux hein, par contre.
Oui, j'imagine.
Mais vraiment c'est bien. Et donc il y a un débat après à l'initiative de l'Observatoire des armements, du CDRPC et du CEDRATS. Voilà.
Yes.
Alors on continue ouais. avec les bons films qui passent cette semaine. Le 18 novembre, donc là c'est au cinéma Saint-Denis, 77 rue de la Croix-Rousse dans le 4e, prix maximum d'entrée 6€. Et le film c'est La vie et rien d'autre de Bernard
Tavernier. Bernard Tapie.
Non, de Bertrand Tavernier, pardon, ouais. Je sais pas pourquoi je voulais l'appeler Bernard. Donc en fait c'est un film pareil qui se passe 2 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Autour du recensement des soldats disparus. Vous savez, c'est les fameux qu'on n'a jamais retrouvés. On leur a dit finalement qu'ils étaient morts parce qu'on ne les avait pas retrouvés. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et ça porte sur l'idée qu'ils s'opposent au fait de chercher une dépouille inconnue pour en faire le soldat inconnu, parce que lui, il trouve que déontologiquement, on n'a pas vraiment le droit d'enlever un corps à sa famille, de ne pas lui dire qu'il est mort, parce que trouver un soldat inconnu, ça revient à priver une famille d'un deuil.
Effectivement.
Voilà, donc c'est toute la notion qui est autour de ça. Voilà, je vous dis pas tout, mais c'est vachement bien. Voilà.
Yes.
C'est un film que, si, je vais juste dire une chose, si vous avez des enfants, pas très trop jeunes, mais entre, on va dire entre 12 et 16 ans, je pense que c'est un des meilleurs films pour dégoûter de la guerre. Vraiment, enfin, parce que c'est pas trop violent. C'est pour ça que je le dis, c'est que c'est pas un film charnier, comme on dit sur les films de guerre. Mais c'est un film extrêmement explicite sur la notion de mort, de guerre, de ce que ça implique. Voilà, parce que vous suivez des personnages, une qui cherche son mari, l'autre qui cherche son fils. Donc voilà, c'est vraiment très bien pour ça. Voilà.
Ok, on continue jeudi 20.
Alors, jeudi 20 novembre, je continue sur les films. C'est une projection débat animée par Alternative Libertaire à la Maison de l'écologie, 4 rue Baudin, dans le premier à Lyon. C'est d'égal à égal, alors c'est de Mélisse et Cordier. Voilà. Et là, c'est, on change totalement de sujet par rapport aux deux précédents films. C'est plutôt sur les migrants et les migrantes, qui, et en l'occurrence, des migrants et migrantes qui sont en plus syndicalistes. Alors, imaginez, pour les patrons, c'est quand même un vrai problème. Donc, double problème. Et pour le Front National, on vous en parle même pas. Mais, voilà. C'est un film autour de leur vie et surtout de leur choix de l'engagement plutôt que de la résignation. Même si, la résignation peut être comprise. Ça, je veux dire, c'est pas quelque chose, il n'y a pas de jugement de morale là-dedans. Mais c'est comment, dans seul coup, on décide de faire le choix de s'engager, de relever la tête, de relever les poings et de se dire je me bats. Voilà. Même quand on est migrant ou migrante.
Yes.
Voilà. Et le 21 novembre.
Bah ouais, on va le dire, ça se passe à Saint-Thé. Animé. Alors, c'est animé par le Coquelicot et ça se passe à la Dérive, 31 rue Basse Dérive, de Rive, pardon. Et c'est une projection, une projection débat à 20h qui s'appelle Ortiz Général sans Dieu ni Maître.
Et c'est donc à Saint-Étienne.
C'est ça, c'est à Saint-Étienne. Alors, moi, vu que je suis naze en ciné, je peux pas vous en dire plus. Et qu'il n'y a pas plus non plus dans le prospectus.
Non, donc, je l'ai pas vu celui-là non plus. Désolé, j'aurais pu, mais là.
Et sur Lyon, par contre, le 21 novembre, le vendredi, toujours, il y a un concert qui est organisé par la CGA à 20h à la Plume Noire, c'est toujours rue Diderot, dans le premier arrondissement de Lyon.
Et samedi et dimanche, qu'est-ce qui se passe donc ?
Eh ben, c'est le salon des éditions Libertaire, où vous pourrez retrouver Radio Canu.
Et pas que, et plein d'éditeurs, et plein de débats, et plein de gens, et peut-être même que vous nous croiserez, amis auditeurs et auditrices, si vous voulez voir à quoi ressemble Fab, Jean-Yves, et peut-être Emma, je sais pas si elle passera, et peut-être Clara, je sais pas si elle sera là, vous entendez ses voix et vous vous dites, mais alors, qu'est-ce qui ressemble? Ah, vous êtes vachement déçus, mais vous pouvez peut-être nous voir.
Ouais, c'est ça. Au moins, vous le saurez.
Voilà. Et puis, bah, j'en profite pour dire que Radio Canu aura une table, parce qu'en fait, bah, l'appel aux dons continue. On est aujourd'hui à un peu plus de 13%, si je me souviens bien, de l'objectif qu'on s'était fixé, qui est de 100 000 euros, je vous le rappelle, amis auditeurs et auditrices.
100 000 euros.
100 000, ouais. Donc voilà. Et donc, eh ben, si vous pouvez passer au salon des éditions Libertaires pour nous donner un petit coup de main, ou acheter un t-shirt sérigraphié unique, il n'y en aura que 100. Ouais. Et voilà, vous n'en aurez que 100 et il faudra venir les chercher au salon. Et voilà, ou sinon, si vous ne pouvez pas, il faut nous écrire. Alors, je n'ai pas l'adresse sous le nez, mais je pense que Jean-Yves doit l'avoir.
Alors, les chèques sont adressés à Radio Canu, BP 1101, 69 201, Lyon, CEDEX 1.
Que des 1. Mais c'est ça.
Oui. Et aussi la possibilité de le faire par virement.
Ouais, ça, faut les voir
sur le site de radiocanu.org.
Et pour ceux qui posent la question souvent, si vous avez du liquide à remettre, le mieux c'est de passer au moment de la prog entre 19 et 20 heures tous les mardis. Voilà, ou au salon. Parce que du coup, ce sera l'occasion de le faire. Voilà.
Ouais, ouais, venez au salon.
Parce qu'il y a des gens qui nous ont dit, mais nous, on n'a pas de chéquier. Ben, ou pas de compte en banque d'ailleurs. Donc voilà. Ça s'entend
ben, mais... Clairement, ouais, mais c'est. Ben, venez au salon, on va se voir. Et quand même, ce que je voulais dire aussi, c'est que Radio Canu va diffuser aussi en direct. Je voulais quand même le redire. Ça se fera avec la participation de plein d'animateurs et d'animatrices. Que ça aille de l'installation à la diffusion, parce que tout ça, ça se fait pas.
Tout seul,
ni par la du Saint-Esprit, hein, c'est des petites mains qui font tout ça. Donc voilà, donc on sera en direct de 13h à 16h le samedi et de 10h à 13h le dimanche. Mmh. Donc ça, ce sera vraiment pour des espaces consacrés au salon, aux éditeurs, aux écrivains, etc. Et vous aurez aussi une émission qui se passera en direct du studio délocalisé, c'est le Petit Bazar, avec qui on avait déjà fait une émission, enfin deux émissions même. Et c'est, bah, eux, c'est comme d'hab, hein, 13h à 14h, mais ça sera
le dimanche.
Ça
se fera dans le studio délocalisé. Je trouve ça plutôt drôle.
Voilà, donc eh ben, on vous invite d'ailleurs, si vous êtes sur le salon, à venir voir comment on fait une émission de radio, même pendant les heures de diffusion. Hein, il suffit juste de passer la tête à travers la porte et vous verrez. Et c'est très vrai qu'il faut démystifier tout ça. C'est pas très, très compliqué, mais c'est vachement sympa. Voilà.
À l'ancienne, quoi, artisanale.
Ouais, voilà. Moi, j'ai une petite brève qui n'a strictement rien à voir, mais c'est très, très personnel. Voilà, mais je pense qu'elle l'écoutera. Donc, Sandrine, j'espère que tu as enfin accouché. Voilà, c'était juste...
Ah oui, c'est vrai.
Parce que ça fait un moment que t'attends. Et là, il est temps que ça vienne. Quand même. Voilà. Donc, on vous dira sûrement dans les semaines à venir ce qu'il y en est de Sandrine. Mais voilà.
D'accord. Donc... Ok, on fera un bilan sanguin. On l'annoncera. On vous dira tout.
Pardon. Et sinon, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on diffuse?
Oui,
du coup,
alors, la semaine prochaine, effectivement, c'est bien que tu lances l'idée parce que, eh bien, nous, la semaine prochaine, il y a plein de trucs, quoi. Donc, on sera là, mais pas vraiment là, ce sera pas du direct, mais en tout cas c'est le fruit d'une interview qu'on a fait cet après-midi. C'est l'interview de Mélusine Vertelune, qui est la co-auteure avec Jeanne Cordelier du livre Ni silence ni pardon, l'inceste, un viol institué.
Voilà.
Alors quand je vous dis qu'on vous a donné le titre, ça vous a fait un petit effet, c'est pas grave, c'est des sujets où on a toujours un peu du mal, mais sauf que si on n'en parle jamais, on n'avance jamais.
Exactement.
Donc l'idée, c'est d'avancer et de se saisir de cet ouvrage, et voilà, enfin on vous en parlera la semaine prochaine.
Donc voilà, ce sera une interview montée et qu'on diffusera sur notre créneau, hein, 22-23, dimanche prochain.
C'est ça, pour briser les tabous.
Toujours, et juste annoncer quand même un petit peu en avance comme ça, que Noël c'est toujours le 24 et le 25 décembre. Non, pardon, c'était pour finir sur une note débile. J'avais promis de m'en faire une ce soir.
D'accord.
Voilà, pardon.
Et ben, on se quitte donc en musique. Le titre, c'est...
Ben attends, le titre, c'est Clara qui va le donner parce que c'est Clara qui l'a choisi. Donc ça tombe bien.
C'est quoi le titre?
Martha's Songs de Deep Forest. Yes.
Voilà.
Et ben, on fait des bisous à tous celles et ceux qui nous écoutent, à Mehdi qui est passé, à Emma qui n'est pas là,
voilà.
qu'on retrouvera rapidement. Et puis ben voilà, on vous fait des bisous, on vous souhaite bon courage pour la semaine qui arrive. Mmh. Et puis ben à la semaine prochaine.
Et ne lâchez rien.
Et ne lâchez rien, grave. Allez, bon courage. Ciao.
La 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 des va